Enfin, j'aimerais bien parler d'un problème qui existe dans le monde. Ça s'appelle la souffrance. Il y a dans le monde des gens qui souffrent. Il y a des multitudes de gens qui sont dans la peine, dans la tristesse. Il y a des cataclysmes, il y a des maladies, il y a des épidémies. Il y a une forte mortalité. Il y a certains pays où la mortalité infantile est plus importante que dans d'autres pays. Il y a des pays privilégiés et d'autres qui le sont moins. Ça, c'est une grande question. Et beaucoup de chrétiens se posent la question et se disent, mais pourquoi il y a tant de souffrance dans ce monde? Et même pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, eh bien, c'est une occasion de se révolter contre Dieu. Il y a dit, il y a trop de souffrance dans ce monde. Voilà. S'il y avait un Dieu, eh bien, on ne souffrirait pas autant. C'est là la grande question et la grande réponse même que l'on trouve dans ce monde. C'est une occasion de rejeter Dieu justement à cause des souffrances. Vous avez par exemple, je me rappelle, le tsunami au Japon qui a fait tant de milliers de morts. Il y a là, on est en train de... Triste fête, hein? C'est le 50 ans, 70 ans d'Hiroshima. C'est bon, c'est l'homme qui est le responsable quand même, mais il y a eu des milliers de morts, des centaines de milliers de morts, et non seulement des morts, mais après des gens qui ont souffert des conséquences, ils sont morts lentement, et même ils sont morts prématurément. Il y a des guerres, il y a des tremblements de terre, il y a des volcans qui rentrent en éruption, il y a des... Et quand on compte les morts, c'est par centaines de milliers. Et ça, c'est, par exemple, vous aviez au Moyen Âge, la peste a tué en France un quart ou un tiers de la population française. Et nous connaissons à peu près la chose. Je suis hésitant sur entre un tiers et un quart, donc je suis français. Mais les frontières, vous savez, ces maladies, elles ne regardent pas les frontières, hein. Elles ne s'arrêtent pas à la frontière et de l'autre côté, eh ben, c'est épargné. Les frontières sont franchies rapidement. Et d'un pays à un autre, les choses se transmettent. Donc ça, c'est une... Vous dites, mais comment c'est possible qu'il y ait tant de souffrance dans ce monde? C'est d'abord la première des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est que Dieu est le Créateur. Il est notre Créateur. Nous sommes des créatures de Dieu. Même si nous avons un enseignement depuis la petite école jusque dans les médias et dans les films, et etc., etc., hein, vous avez toutes sortes de choses qui sont dites, Dieu n'existe pas. Donc nous existons, nous, on est bien obligé de l'admettre, parce que, il y a eu le hasard. Bon, je ne veux pas rentrer dans la polémique du hasard qui crée beaucoup de choses, hein. Comme disait quelqu'un, il faut beaucoup de foi pour être athée et beaucoup de foi pour croire au hasard. Parce que moi, je ne sais pas, un hasard ou un accident. Par hasard, si je pars je sais pas, de 200 km pour arriver ici, je ne vais pas arriver par hasard si je prends n'importe quelle route, hein. Il faut que j'ai un but, il faut que j'arrive et que je fasse attention instant après instant. Donc, on nous apprend que Dieu n'existe pas et que nous sommes le fruit du hasard. Mais nous ne sommes pas le fruit du hasard. Nous sommes des créatures de Dieu. Ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Une deuxième chose, c'est que l'homme est pécheur. Dieu a mis Adam et Ève, ses premières créatures humaines, il les a mis dans un jardin. Elles ont été mises dans un jardin. Et à ce moment-là, elles avaient tout devant elles et il n'y avait pas de maladie, il n'y avait pas de cataclysme, il n'y avait pas d'épidémie, il n'y avait pas de toutes ces choses. Même la mort n'existait pas. Et alors, un jour, ils ont péché. Et la conséquence du péché a été la mort. D'abord la mort spirituelle, ensuite la mort physique. Oh, bien sûr, la mort physique a attendu pour Adam, hein, il n'est pas mort instantanément. Il est mort 930 ans plus tard. Il a eu une longue vie. Mais en regardant bien la vie des patriarches, je me suis rendu compte que leur longue vie, c'était une longue vieillesse. Parce qu'à 70 ans, ils étaient comme nous, ils étaient âgés. Et à 930 ans, eh bien, il devait être perclus, aveugle et presque impotent, parce que ils avaient une très longue vieillesse, finalement. Ce n'est pas une longue jeunesse, c'est une longue vieillesse. Et donc, les conséquences du péché étaient énormes. Donc, c'est à cause du péché, il y a eu la maladie, il y a eu la souffrance, il y a eu toutes ces choses, comme des jugements. C'est donc un point important, c'est de savoir qu'en tant que créature de Dieu, l'homme s'étant détourné de Dieu et ayant péché, il y a des conséquences à son péché. Et les conséquences de son péché, ce sont les souffrances et c'est la mort. Parce qu'il y a des jugements. Donc si nous voyons toutes ces choses, nous disons, il y a des jugements. Mais n'oublions jamais non plus une troisième chose, c'est que Dieu, comme le disait notre frère, est amour. Il n'a jamais cessé d'aimer l'être humain. Même l'être humain le plus bas tombé, même celui qui, hein, j'ai du mal à le dire, hein, mais il y a un Hitler ou un Staline qui étaient des gens qui ont tué des milliers de gens, ou un Pol Pot, ou comme vous voulez, hein. Il y a des dictateurs et des terroristes et des méchants sur cette terre, et maintenant il y en a de nouveaux, maintenant j'ai perdu les noms, hein. On en a tellement qu'on n'arrive plus à retenir tous les noms. Mais ils tuent des milliers de gens, et bien Dieu aime, malgré tout, il aime ces personnes-là. Nous avons, nous, du mal à le penser. Mais l'amour de Dieu dépasse les frontières, dépasse toutes choses, toutes les cultures et toutes les ethnies et toutes ces choses. L'amour de Dieu est infini et immense. Mais Dieu est juste. Je me rappelle quand j'étais à l'Institut biblique, un jour, un étudiant a prêché sur l'amour de Dieu. Et à la fin, il y a eu les critiques et les commentaires sur son sermon. Et le professeur lui a dit quelque chose de très important. Il lui a dit, n'oublie jamais, quand tu parles de l'amour de Dieu, de parler de la justice de Dieu. Parce que si tu mets l'amour sans la justice, cet amour de Dieu, c'est de la faiblesse. Parce qu'il faut qu'il y ait la justice à l'amour. Dieu est amour, mais il ne ferme pas les yeux sur le péché. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Il aime le pécheur. Il est obligé de le châtier à cause de son péché. Parce que jamais l'amour et la justice de Dieu ne sont séparés de sa personne. Parce que si Dieu est amour, Dieu est juste aussi. L'un ne va pas sans l'autre. Comme vous marchez avec deux jambes et vous marchez normalement, eh bien vous mettez une jambe après l'autre, et vous avancez, hein, un pas après l'autre, hein, pied droit, pied gauche, hein, je vais vous apprendre à marcher. Et alors, mais on dit droite-gauche, hein, c'est pour marcher tous de même pas. Mais c'est en fait, dans l'amour de Dieu va avec sa justice, toujours, toujours. Et vous voyez ces dictateurs dont j'ai cité les noms, eh bien, sont morts prématurément et souvent dramatiquement. Bon, bien sûr, certains ont fini leur jour, mais ils sont plutôt rares, hein. Par exemple, un jour, j'ai fait une recherche sur les empereurs romains. Eh bien, sur des centaines d'années, il y en a deux qui sont morts dans leur lit, de maladie. C'est grave. Mais tous les autres ont été assassinés, hein. C'est même pas la peine. Toujours, ces dictateurs étaient assassinés. Parce qu'il y en a un qui voulait prendre leur place et ils y sont arrivés. Bon. Et certains ont régné 3-4 jours, 3 mois, des règnes très très courts. Donc c'est le problème de la souffrance dans ce monde, eh bien, s'explique par la justice de Dieu. Il est normal que Dieu agisse avec justice. Il aime l'homme, mais il agit avec justice, toujours. Le châtiment n'est pas disproportionné par rapport au coupable et à la faute du coupable. Et même Dieu prolonge le temps de sa patience Parce qu'il y a aussi un autre élément, c'est la patience de Dieu, la longue patience de Dieu. Dieu attend que le pécheur se repente et qu'il reconnaisse ses fautes, qu'il reconnaisse ses péchés et qu'il puisse se réconcilier avec lui. Parce que comme il y a le péché, il y a la désobéissance, il y a la rébellion contre Dieu et il y a entre l'homme et Dieu un immense fossé qui s'appelle le péché. Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché. Impossible. Donc, il attend que le pécheur se repente. Dieu nous a donné son Fils Jésus-Christ pour que nous puissions être sauvés, pour que nous puissions être lavés de nos péchés, pour que nous puissions être réconciliés avec lui-même. Nous sommes des pécheurs. Il y a la justice de Dieu. Mais Dieu a pourvu un moyen de salut. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est sa mort sur la croix, ses souffrances sur la croix sont notre rachat, sont notre salut. Et c'est quand nous acceptons Jésus-Christ comme notre sauveur que nous sommes sauvés, que nous sommes réconciliés avec Dieu, qu'il y a la paix avec Dieu. Donc c'est ce problème de la souffrance dans ce monde, c'est vrai que ce sont des jugements de Dieu. Dieu est patient, il permet qu'il y ait des dictateurs et des peuples qui sont sous la dictature et qui souffrent dans une effroyable dictature. Et tout cela parce que l'homme a péché et qu'il a besoin, que c'est nécessaire qu'il y ait des jugements. Donc nous allons prendre un texte biblique que j'utilise souvent et j'aime beaucoup, mais ce n'est pas la première fois donc, que je lis ce texte. C'est le psaume 51. Psaume 51, donc c'est de David, hein, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Donc vous connaissez l'histoire, hein, David et Bathsheba, on connaît l'adultère de David et le meurtre, hein, il a tué le mari de Bathsheba. Et David, donc après avoir subi pas mal de problèmes, il dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi et purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. » Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un esprit, un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Voilà, c'est la prière de repentance de David. Mais pour que David puisse prononcer cette prière, il a fallu des années de souffrance, des années de culpabilité, des années par lesquelles il a versé des larmes. C'est donc le problème de la souffrance, c'est un problème qui est lié avec le péché, avec la désobéissance. Parce que quand le péché arrive dans notre vie, il endurcit notre cœur. David a commis un adultère, il a commis un meurtre. Hein. Ces choses sont allées l'une après l'autre. Il s'est trouvé enlacé dans une dégringolade. Et j'imagine qu'il y a eu d'autres péchés qu'il a commis ensuite, parce qu'il a fait de la dissimulation et des mensonges. Bon, nous, dans notre esprit, on se dit que c'est moins grave que le meurtre et l'adultère. Mais néanmoins, ce sont des choses qui sont graves. Et c'est pendant 2 ans, David n'a pas écouté sa conscience. Parce qu'au fond de lui-même, il y avait quelque chose qui lui disait que ça n'allait pas, qu'il avait fait ce qui était que Dieu désapprouvait, ce que Dieu condamnait. Donc il n'a pas écouté la voix de sa conscience et il a persévéré dans son péché. Et puis dans cette histoire, il y a un bébé qui est arrivé et qui est mort. On évalue à peu près le temps entre le péché de David et la mort de ce bébé, à peu près à 2 ans. Voilà. Pendant 2 ans, David a endurci son cœur et il n'a pas écouté la voix de sa conscience qui lui disait que ce qu'il a fait était mal. Donc en endurcissant son cœur, il s'est fermé à la voix de Dieu. Jour après jour, il s'est endurci, il s'est endurci, il s'est endurci. Le jour où il a voulu se repentir, il ne pouvait plus, parce que le cœur était endurci. Parce que le problème du péché, c'est l'endurcissement. Nous prenons ça, bon, ben, on dit dans ce monde, les gens sont indifférents. Ils ne sont pas seulement indifférents, ils sont endurcis. Et pour qu'ils puissent se repentir, eh bien, il faut des souffrances. Et c'est pour cela qu'il y a tant de souffrances dans ce monde. Il y a des souffrances parce que Dieu est notre créateur, Dieu est le souverain de l'univers, et c'est des comptes que nous avons à rendre à Dieu. C'est tout notre imaginaire de Dieu n'existe pas et tout cela, c'est plutôt ce qu'ils disent n'existe pas. Mais il y a un Dieu qui existe et auquel il faut rendre des comptes. Et nous ne sommes pas prêts à rencontrer Dieu. Nous ne sommes pas prêts à entrer dans la présence de Dieu et nous sommes tous des coupables. Il a fallu le sang de Jésus-Christ. Pour moi, il a fallu, avant que je me convertisse, il m'a fallu passer par des souffrances. Mon cœur était endurci. J'entendais l'évangile depuis que j'étais enfant. Quand mes parents ont accepté l'évangile, j'avais 11 ans. Je me suis converti, j'en avais 19. Mais j'ai entendu l'évangile des dizaines de fois. Combien de fois j'ai été touché par l'évangile? Et j'entendais, et je savais que cela s'adressait à moi. Ce n'était pas seulement que j'avais compris le message, mais il y avait quelque chose au fond de moi-même qui disait que j'étais pécheur et que j'avais besoin de me repentir. Je l'entendais, cette voix, au fond de moi-même, mais je ne disais pas tout de suite. Je veux vivre ma vie. Je veux encore vivre dans le péché. Oh, je ne disais pas les choses comme ça, mais je savais que si j'acceptais le Seigneur Jésus-Christ, entre le péché et moi, ce sera plus aussi facile. Mais comme je n'étais pas sauvé, eh bien, j'avais certaines facilités. Voilà. Mais un jour, j'étais convaincu de péché. J'étais en train de travailler. J'étais convaincu de péché. En une seconde, avant, je travaillais tranquillement. C'était le printemps. On était une bande de copains. On faisait travailler tous ensemble. C'était vraiment extraordinaire, hein. Il y avait une grande proximité. On était 8 sur un chantier et on était 8 amis. Et patron compris. Alors vraiment, j'étais le plus jeune et le plus âgé, je crois qu'il avait 35 ans. Donc c'était le patron. Et alors, on travaillait et puis en une seconde, quand je dis une seconde, c'est bien long. Mais je ne savais pas et brusquement, j'étais convaincu de péché. Je me dis, mais tu es perdu. C'est tout ce que tu fais pour te réconcilier avec Dieu. J'étais convaincu de péché, mais il a fallu passer par des souffrances. Parce que avant, je m'étais rendu compte du néant de ma vie, du néant de toutes ces entreprises, de tout ça. Tout ce que j'avais regardé comme étant le plus important, je voyais que c'est l'inutilité de toutes ces choses. Et puis finalement, un jour, j'étais convaincu de péché. Mais il a fallu passer par des souffrances avant, parce que mon cœur s'était endurci. Et le jour où le Seigneur Jésus-Christ est devenu mon sauveur, il est devenu non seulement mon sauveur, mais il est devenu mon meilleur ami. Il est devenu celui qui a pris toute ma vie. Je n'y avais rien de trop précieux pour moi. Tout était pour lui. Je lui ai tout donné. C'était, et c'est toujours, hein. C'est pas seulement le passé, c'est le présent, puisque après bien des années, quelques décennies quand même, hein, j'avais 19 ans, ça commence à dater tout ça. Mais ça n'a pas changé. Le Seigneur Jésus-Christ est resté mon sauveur. Il est resté mon cher sauveur. Quand je lis la parole de Dieu, souvent je me dis, mais qu'est-ce qu'il m'a aimé et qu'est-ce qu'il m'aime encore? À un moment, mon cœur a été brisé. Et le moment où le cœur est brisé, à ce moment-là, on est accessible à la voix de Dieu et à entendre le message de Dieu. Mais quand notre cœur est dur, quand nous aimons, quand nous contestons avec Dieu, quand nous disons, mais non, c'est pas grave. Je l'ai vue, elle est jolie, et puis voilà, c'est arrivé, c'est un concours de circonstances. C'est ce qu'aurait pu dire David. Voilà, c'était sous ma fenêtre, je suis tombé. Quitte ne tombe pas. Et on trouve de bonnes excuses, et le cœur s'endurcit dans nos excuses, dans notre péché, dans notre compassion vis-à-vis de nous-mêmes, notre tolérance. Et une chose n'est pas si grave que ça. Et puis il y a, bon, c'est tout le monde le fait. Et puis je désobéis. Bon, ben c'est, qu'est-ce que tu veux? Tu désobéis. Ça arrive à d'autres, hein. Et puis les désobéissances, si je devais demander pardon pour tous mes péchés, hein, si je devais vraiment me repentir pour chaque péché, vraiment, j'y passerais toute ma journée, hein. Je pêche combien de fois dans une journée? Il y en a même que j'oublie. Et alors, avec des excuses comme ça, des paroles comme cela, on ajourne. On tempère, on laisse les choses courir et on s'endurcit. Et il a fallu que Dieu frappe David durement pour qu'il puisse écrire ce psa fameux psaume. Parce que quand le bébé est mort, il n'aurait pas pu écrire le psaume. Il a fallu des années avant qu'il puisse le faire. Et Dieu lui a promis des jugements. Il a dit désormais. L'épée ne s'éloignera pas de ta maison. À partir du moment où il a péché, et il a fait tuer un homme pour valider son péché. C'est le cœur endurci attend le jugement. Et je peux vous dire, si vous trouvez des excuses pour votre péché, si vous trouvez des raisons pour ne pas vous mettre au pied de la croix et de dire, je m'humilie, je me repens. Votre cœur s'endurcit. On a l'habitude de dire cela aux personnes qui entendent l'évangile pour la première fois, ont le cœur touché et n'acceptent pas Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils se disent, oui, j'ai besoin d'un sauveur, je reconnais mes péchés, mais pas tout de suite. C'est ce que j'ai fait. Mais on dit, votre cœur s'endurcit. Fois après fois, vous entendez aujourd'hui, et le cœur s'endurcit de plus en plus. Mais nous sommes chrétiens, nés de nouveau. Hein? Eh bien, notre cœur s'endurcit dans le péché, dans la séduction du péché, dans la tolérance du péché, dans la minimisation des conséquences du péché. On regarde cela comme n'étant pas si important que ça. Et on tarde à mettre notre vie en règle. Au lieu de dire, Seigneur, j'ai péché, je suis troublé au fond de moi-même, j'ai fait ce qui est mal. Si bien que nous sommes... Un groupe de chrétiens nés de nouveau, réconciliés avec Dieu, mais on peut parler de choses spirituelles sans avoir le cœur touché. On parle, et je peux vous dire, j'ai été étudiant en théologie, et l'institut biblique dans lequel j'étais, il y avait une cinquantaine d'étudiants, on était 52, et 18 nationalités différentes, donc c'était pas rien. Eh bien, on discutait de théologie, du Saint-Esprit, mais non, moi j'interprète ce verset de cette manière-là. Mais non, on essayait comme ça. Nous étions des experts. On se prenait au sérieux. Mais on ne fléchit pas les genoux. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons du Saint-Esprit. Ce n'est pas un sujet de conversation banal. On ne parle pas de la pluie et du beau temps. On ne parle pas de la nouvelle voiture qui vient de sortir. Ou de nouveaux progrès technologiques, ou de la météo, ou de ces choses-là. On est en train de parler de Dieu. et nous parlons de Dieu comme si c'était un sujet de conversation banal. Chacun a son opinion, on se tiraille, on se chamaille. Je dis, mais non, mais toi, tu, non. Non, tu n'as pas compris, moi, je saisis. Et on parle, la Bible dit, et on prend de la hauteur, de la suffisance, parce que nous avons la Bible. Mais vous savez, ce livre, il y a des gens qui ont versé leur sang pour que nous l'ayons. Il y a des gens qui ont aimé la lecture de la Bible jusqu'à perdre leur vie, perdre leur liberté. Je me rappelle d'un tableau, par un auteur flamand, je ne me rappelle plus lequel, où il y a un homme âgé qui est en train de lire la Bible et la jeune fille qui lit par-dessus son épaule regarde la porte parce qu'elle a entendu un bruit et elle est craintive parce que c'était interdit de lire la Bible. Il y a des pays où on ne lit pas la Bible. C'est interdit. Je me rappelle quand en Russie, je recevais des cahiers de la Bible. C'est-à-dire qu'un livre est formé de cahiers. Hein. Il y a 8 pages, 32 pages, c'est le maximum. Et c'est relié ensemble. On appelle ça des cahiers. Hein. Et je recevais un et que je devais envoyer. Donc je recevais plusieurs, mais c'était toujours le même. Ce n'était pas une Bible entière. C'était le même cahier que j'envoyais à différentes adresses. Et c'était d'autres envoyés aussi. Et finalement, il y avait une personne qui possédait la Bible entière. Voilà, c'était une méthode pour envoyer la Bible en Union soviétique. Et alors, c'était... Mais il y avait même des personnes qui recopiaient la Bible à la main. Ou qui avait un chapitre de la Bible recueilli à la main. Mais nous avons la Bible et nous la prenons, nous la lisons. Aujourd'hui, pas envie de lire la Bible. Et on met de côté. Pourquoi ? Parce que le péché a endurci notre cœur. Nous ne sommes plus sensibles. Vous pouvez lire certains passages de la Bible sans être vraiment intéressé. Oui, ça, je l'ai déjà lu. Je passe à autre chose. Je me rappelle un jour... J'étais avec d'autres étudiants en théologie. Et alors, on lisait tous les matins un psaume. Et on est arrivé au psaume 136 ou 138. Maintenant, ma mémoire n'est plus aussi bonne. Hein. Et « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Et dans ce psaume, il y a « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Une petite phrase. Car louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Une petite phrase, etc., etc. Tout le psaume, il y a au moins une vingtaine de fois, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et une des personnes, je ne citerai pas le nom, parce qu'elle n'est pas parmi nous, mais elle est connue, elle dit, bon, ce psaume, on le passe. Hein, et elle se répète toujours la même chose. Et puis, un jour, en lisant dans les chroniques, j'ai lu quelque chose. Il y a, quand Salomon a fait la dédicace du temple, le temple venait d'être bâti. Il y avait tous les chanteurs et tout cela. Et à un certain moment, les chanteurs ont chanté « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours ». Et à ce moment-là, la Shekinah, la gloire de Dieu est entrée dans le temple. Et plus personne n'a pu se tenir dans le temple. C'était fini. Ils ont vidé le temple parce que Dieu est entré dans son temple. Avant, le temple, c'était un chantier. N'importe qui rentrait, bâtissait, tous les ouvriers étaient là et tout. Mais à partir du moment où la gloire de Dieu, la Shekinah, est entrée dans le temple, ça a été le vide. Plus personne ne pouvait rentrer. Et ça a été... ils y sont entrés quand il était dit « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Alors, cette fraction de versets qui revient dans ce psaume constamment n'est pas une petite chose. C'est une grande vérité, une vérité éternelle. Mais notre cœur est si endurci que nous n'arrivons même pas à peser la vérité et à être touchés dans notre cœur. « Louez l'Éternel. » Car sa miséricorde, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Savez-vous que Dieu est un Dieu de miséricorde, et sa miséricorde dure toujours. Il est lent à la colère, riche en bonté. Il ne tient pas le coupable pour innocent, mais il prend du temps pour que la personne se repente. C'est notre cœur est si endurci. C'est pour cela qu'il y a des souffrances. C'est pour cela qu'il y a des châtiments. Parce que s'il n'y avait pas de châtiment, s'il n'y avait pas de souffrance, notre cœur resterait endurci. Mais quand est-ce que nous crions à Dieu? Quand nous n'en pouvons plus? Quand la main de Dieu s'appesantit sur nous? Nous disons, Seigneur, j'ai péché. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, nous avons été acculés à demander pardon. Mais nous n'avons pas demandé spontanément. Ou quand nous avons demandé pardon, nous avons rempli une formalité. Nous avons dit, Seigneur, je te demande pardon parce que j'ai été impatient. Voilà. Et quand on dit des choses comme ça, c'est pas impatient, je me suis mis en colère, j'ai eu de la rage dans le cœur, j'étais mécontent du frère ou de la sœur, ou du voisin, ou de ceci et cela, et j'étais vraiment très très en colère et très fâché. On dit j'étais impatient. Ou si on admet des choses, on minimise notre péché, on ne minimise notre culpabilité, si bien que le cœur s'endurcit. Et il faut qu'il y ait des châtiments, il faut qu'il y ait des souffrances. Il faut qu'il y ait des moments difficiles pour que nous apprenions à fléchir le genou et de dire « Seigneur, je me reconnais pécheur ». Vous savez, la première chose, quand une personne revient à Dieu, la première des choses, c'est qu'elle reconnaît son péché. Elle reconnaît son oubli de Dieu. Elle reconnaît qu'elle a mis Dieu de côté dans sa vie. Oh, ça ne veut pas dire qu'elle n'est plus venue à l'église ou qu'elle n'a pas assisté aux réunions de prière. Elle a été dans toutes les réunions de prière et toutes les réunions de l'église et tout cela, mais sans joie, sans goût, sans soif, sans le désir de marcher avec Dieu, sans le désir d'être dans la présence de Dieu. Vous savez, vous êtes dans la présence de Dieu. Nous regardons les uns et les autres et nous disons, oh, vraiment, nous sommes, on se connaît. Ça fait un moment qu'on se voit les uns et les autres. Mais on a pris l'habitude. Je vais vous dire quelque chose. Ce matin, je pensais à vous. Je pensais à un frère en Christ en particulier. Je me dis, mon frère, je vais voir mon frère en Christ. Il y a un don précieux, c'est la présence les uns des autres. Pourquoi est-ce que nous sommes l'Église du Dieu vivant? Combien nous prenons à la légère quelque chose d'aussi précieux que l'Église du Dieu vivant? Vous ne pouvez pas dire, oh oui, mais cette Église, elle est ceci, oh mais cette Église, elle est ça. Ne jugez pas. Nous, individuellement, nous sommes très imparfaits. Mais ce groupe s'appelle l'Église du Dieu vivant. Nous sommes tous imparfaits. Nous avons tous des problèmes à résoudre et nous avons tous des progrès à faire. C'est un fait, c'est certain, il n'y a aucune question là-dessus. Mais ce qu'il y a, je lisais ce matin, cette Église belle, sans tache ni ride, qui se présente devant le trône de Dieu dans l'Apocalypse, hein. Elle est belle. Vous savez pourquoi? Parce que le sang de Christ a coulé pour elle. Il a donné sa vie pour son Église. Et l'Église, elle est belle, lavée par le sang de Christ. Individuellement, c'est vrai, nous sommes des pécheurs. C'est vrai que nous avons besoin de mettre des choses en règle. Mais l'Église de Dieu, parce que notre cœur est endurci, nous n'arrivons même plus à apprécier la présence des uns et des autres. Et nous portons des jugements sur les uns et les autres. Et nous disons, oui, mais ceci, il est ça. Mais là, et on juge des formes et des coutumes et des manières d'être et des manières de faire. On juge même l'Église de Dieu. Oh, l'Église de Dieu, elle est bien imparfaite. C'est l'Église de Dieu. Ayez beaucoup de respect. Ayez du respect pour la parole de Dieu. Ayez du respect pour l'Église de Dieu. Quand quelqu'un est né de nouveau, il est une nouvelle créature. Quand des personnes se réunissent ensemble pour glorifier le Seigneur, pour rendre un culte, pour partager la parole de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant, organisée, Et ne méprisez pas l'église de Dieu, l'église du Dieu vivant. Après, elle a des coutumes. En Afrique, les chrétiens se réunissent. Hein. Mes amis africains m'ont souvent parlé comment ils se réunissent et tout ça. Ce n'est pas le même comme nous. Hein. Voilà. Pas tout à fait la même chose. Mais c'est l'église de Dieu aussi. Et qui se réunit à la gloire de Dieu. Et qui loue le Seigneur. Et ce sont des cœurs qui aiment Dieu. Et qui ont soif de Dieu. Et peut-être plus que nous. Et qui se réunissent avec beaucoup plus de dénuement. Parce que ils ont des souffrances, ils ont parfois la pauvreté qui est là, et les cœurs sont beaucoup plus sensibles, ils sont beaucoup plus prêts à louer le Seigneur, à lui rendre grâce et à reconnaître les bienfaits de Dieu. C'est un malheur quand nous sommes si endurcis qu'il n'y a plus dans notre cœur de louange, d'adoration, de recherche de Dieu, cette palpitation, c'est vous allez ouvrir votre Bible. Vous êtes presque, vous levez le matin, bon, il faut que je fasse ma toilette, il faut que je déjeune, si j'ai quelques secondes, je vais pouvoir lire la Bible. Et il y a des personnes comme cela, au lieu de dire, je préférerais me passer de déjeuner plutôt que de me passer d'une lecture biblique. Si vous aviez le choix. Oh, bien sûr, en théorie, on va dire, non, la lecture de la Bible, bien sûr. Mais dans la réalité, on a fait tout ce qu'il fallait faire et on donne à Dieu les restes. Et puis peut-être que dans le métro, je pourrais lire quelque chose. Ce voisin m'a regardé dans le droit d'air. Bon, je ne vais pas sortir la Bible. Hein. C'est pas me commettre et risque de penser mal. Et voilà. Et nous avons négligé parce que nous aimons peu, parce que notre cœur s'est endurci. Et je me rappelle quand je me suis converti. J'allais en vélo à l'église et j'arrivais une demi-heure en avance. Et une demi-heure en avance, qu'est-ce que ça voulait dire? Ben, le pasteur n'était même pas là. Et j'étais devant la porte et j'attendais devant la porte une demi-heure. Et la pluie qui tombait. Et entre la porte et la pluie, il y avait l'épaisseur du linteau, c'est-à-dire une trentaine de centimètres. J'étais beaucoup plus maigre que je suis maintenant, donc je n'étais pas mouillé. Mais je me mettait contre la porte et il y avait la pluie qui tombait. Il n'y avait même pas une gouttière, hein, le bâtiment était neuf. Mais j'aurais fait des kilomètres pour aller à l'église. Je n'aurais jamais manqué une réunion. Je prenais la Bible, je m'en rappelle, et j'étais rentré un après-midi. J'ai passé l'après-midi dans c'était pas l'église, c'était le lieu de culte, hein, le temple. Et j'étais assis, et dans l'après-midi, j'ai lu le livre des Proverbes. Tout entier, 31 chapitres, comme ça. Mais je ne me suis même pas rendu compte que j'ai passé l'après-midi. Et puis après, j'ai pris des livres. Et puis, je me suis rendu compte que j'ai mesuré le temps. Je me suis dit, combien de temps je mets pour lire l'épître aux Philippiens? Ah, je vais vous le dire, 20 minutes. L'épître aux Colossiens, c'est pareil. L'épître aux Éphésiens, c'est 3 quarts d'heure. L'évangile de Matthieu, c'est 1 heure et demie. J'avais calculé tout cela. L'épître aux Hébreux, pareil, 1 heure et demie. Enfin, un jour, j'ai lu l'épître aux Hébreux. Ouf, qu'est-ce que j'ai été béni. Je l'ai lu, mais tout entier, hein, tout entière, d'un bout à l'autre. Oh, j'étais tellement béni. Je devais préparer une étude biblique pour le soir. Et bon, histoire de me mettre en train, quoi. Puis j'ai tellement été béni. Eh bien, je l'ai lu une deuxième fois. Oh là là, deuxième fois, quelle bénédiction! Bien plus grande que la première. Mais j'avais un petit peu d'angoisse parce que j'avais une étude biblique à préparer. Bon. Mais j'ai tellement été béni. Pas pu m'empêcher, je l'ai eu une troisième fois. Ah oui, hein. Ah, la troisième fois, alors là, c'était rien à côté des deux autres fois. Hein. Mais à la troisième fois, mon cœur était tellement rempli, j'étais tellement béni. J'ai vu dans l'Épître aux Hébreux des liens, des choses que je n'avais jamais vues avant. Et combien c'était une unité. Et en fait, j'ai préparé 2 études bibliques sur l'Épître aux Hébreux, mais dans tout ce qui rattache les chapitres et les pensées les unes aux autres et tout cela. Et c'était pour moi une très grande bénédiction. Des heures. Mais je peux vous dire, mon cœur n'était pas endurci. J'aimais le Seigneur tellement. la parole de Dieu. J'en avais une soif, un goût, un désir. Je ne pouvais pas m'empêcher. Je me rappelle avoir lu l'épître aux Philippiens et aux Colossiens tous les jours pendant des années. C'est sans manquer un seul jour. Mais bon, tu vas lire l'épître aux Colossiens. Je lisais en une semaine quasiment le Nouveau Testament tout entier. Dans une semaine. Et puis il y avait des livres que je lisais plusieurs fois dans la semaine. Hein. Mais c'était la soif, parce qu'on aime Dieu, parce que le cœur est libre, parce que le péché, nous le condamnons, nous ne l'aimons pas, nous le refusons, nous le mettons de côté. On ne trouve pas d'excuses à notre péché, on ne tolère pas. Alors notre cœur est libre. Nous nous approchons de Dieu avec joie, avec tranquillité, avec le désir de le connaître. Nous l'aimons plus que tout, parce que notre cœur n'est pas endurci. Mais quand nous tolérons le péché, quand nous tolérons la désobéissance, quand nous laissons les choses se ralentir dans notre vie, eh bien le péché nous endurcit, nous donne de la rébellion contre Dieu, parce qu'un péché en entraîne un autre. Parce que notre cœur endurci s'appesantit, s'alourdit. On perd de vue les choses. On a une moins bonne vision. Il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, ça, je le fais. Bon, c'est d'accord. C'est bon. Tout le monde pêche. C'est comme cela. Moi, c'est une chose. L'autre, ce sera une autre. Et on trouve des excuses. Et notre cœur s'est endurci. Et nous constatons le fait. Et c'est la solution. Eh bien, c'est de prendre conscience que notre cœur s'est endurci. Vous pouvez dire, je suis un bon chrétien. Non. Mettez votre vie en règle devant Dieu. Laissez-vous sonder par la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Si quelque chose est dit, ne dites pas, oui, mais ça, je connais quelqu'un qui... Moi, je connais quelqu'un, il est ici. Et ce matin, je lisais quelque chose, je ne veux pas dire quoi, hein, mais c'est dans les psaumes, hein, c'était un peu avant. Et alors, je me suis humilié, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je te demande pardon. C'est la parole de Dieu doit toucher notre cœur. Mais elle ne touche pas le cœur des autres, c'est le nôtre. C'est mon cœur qui doit être touché. Quand je lis la parole de Dieu, je ne la lis pas pour les autres. Je la lis pour moi. Je la lis pour que Dieu condamne, juge, mette à la lumière. Parce que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Elle ne m'éclaire pas seulement sur mon chemin, mais elle éclaire ma vie. Elle éclaire l'intérieur. Elle met en lumière les choses qui sont dans les ténèbres, que je maintiens dans les ténèbres. Et ces choses-là, elle les révèle à la lumière. Et alors, avec netteté, franchise, courage, je dis non, ça c'est du péché. Ça c'est de la désobéissance. Là, je suis coupable. Là, j'ai fait ce qui est mal. Parce qu'on laisse la parole de Dieu nous sonder. Et on va même... On se met du côté de Dieu contre soi. On dit, Seigneur, tu es juste, tu es saint. Et je ne tolère pas le péché dans ma vie. Ce que j'ai fait là, je le condamne. Je condamne aussi fortement que toi, tu le condamnes. Je ne veux pas me trouver d'excuses. Je suis un pharisien, oui, je suis un pharisien. Je suis un rebelle, oui, je suis un rebelle. Je lis la parole de Dieu, j'en tiens pas compte. Oui, c'est vrai, je ne le tiens pas compte. Je lis la parole de Dieu, mon cœur est endurci, c'est vrai. Et on s'humilie devant Dieu. Et on laisse la parole de Dieu nous sonder, mettre la lumière, et on condamne. Et on dit, Seigneur, Bien sûr, ce n'est pas dans un esprit morbide que l'on fait cela. On n'est pas en train de s'auto-inculpabiliser, se rechercher des péchés qui n'existent pas. Mais quand on demande à Dieu de nous éclairer, on le laisse nous éclairer. Et on va jusqu'au bout de cet éclaircissement et de cette lumière dans nos vies. On va jusqu'au bout. On demande pardon à Dieu. On s'humilie. Et je ne dis pas que c'est en un jour que les choses se font. Parfois, il faut des mois. Il faut s'humilier. Et parfois même, il faut jeûner. Il faut passer du temps dans la présence de Dieu parce que le cœur s'est endurci depuis longtemps. Nous sommes accoutumés à notre tiédeur, à notre manque de spiritualité, à notre laisser-aller. Et alors, parfois, il faut passer du temps. Et ça prend des années. Et parfois, oui, ça prend des années. Mais si, il faut faire les choses sérieusement. Il faut aller jusqu'au bout. Et dire, Seigneur, ça prendra le temps, ça prendra. Mais j'irai jusqu'au bout et je reviendrai à toi. Et mon cœur sera comme au premier jour, comme quand j'avais soif de toi, quand je me réjouissais de venir dans ton église, que je lisais ta parole avec soif, avec le désir de te connaître et de marcher dans tes voies, et de te... J'irai jusqu'au bout. Je ne me laisserai pas convaincre par Satan. Je ne me laisserai pas convaincre par ma tiédeur ou par ma paresse ou par mon manque de zèle. Toutes ces choses-là, même si je reviens en arrière, je reviendrai. Et je veux aller jusqu'au bout. C'est quand on prend des décisions franches, sérieuses, on dit, Seigneur, je prends la décision, mais je te demande, toi, de me donner la force, la sagesse, le discernement pour aller jusqu'au bout. C'est comme Jacob. Jacob était un homme particulièrement endurci parce qu'il avait trompé les hommes et il avait trompé Dieu. Il prétendait le tromper encore. Mais le jour où il a rencontré Dieu, l'ange de l'Éternel, il a dit, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Et il a lutté jusqu'à ce qu'il ait la bénédiction. Il y a des personnes comme cela qui disent, je ne te laisserai pas aller. Je reviendrai à toi. Oh, vous savez, le cœur endurci, c'est une chose terrible, terrible. C'est notre pire ennemi. Ce n'est pas l'autre, c'est nous-mêmes. C'est parce que nous tolérons tellement de choses. Nous avons tellement de laisser-aller, tellement de familiarité avec la désobéissance, avec le péché. Mais je peux vous dire, quand vous voulez vraiment revenir, alors allez-y. Ne vous laissez pas de repos. C'est très important d'aller jusqu'au bout. Nous allons prier. Ô notre Dieu, combien nous désirons te louer, parce que tu es le Dieu vivant et vrai, le Dieu saint et juste. Nous ne voulons pas tolérer le péché. Nous voulons te demander que tu parles à nos cœurs, que tu brises notre endurcissement. Seigneur, tu sais combien nous sommes rebelles, combien nous sommes compatissants avec le péché, combien nous l'excusons. Mais nous te demandons, Seigneur, que toi-même tu interviennes et que tu agisses dans nos vies, que tu éclaires nos yeux, Seigneur, que nous sachions vraiment être résolus, que nous sachions condamner ce qui ne va pas dans notre vie, pour revenir à toi complètement, Seigneur. Ô notre Dieu, nous voulons te demander que ce soit toi qui triomphe, Seigneur, que ce soit toi qui sois glorifié. Oui, Père notre Dieu, nous voulons te louer parce que tu as usé de miséricorde, de grâce envers nous, parce que tu as été lent à la colère et riche en bonté, parce que tu ne nous as pas punis selon nos péchés. Mais Seigneur, tu nous as au contraire attirés vers toi. Tu continues à nous parler, continues à nous essayer de nous convaincre de revenir à toi. Mais Père, nous voulons te demander que nos cœurs soient disponibles, disposés à te chercher, à te rencontrer, à vivre pour toi. Ô notre Dieu, fais rentrer et pénétrer la sagesse au-dedans de notre cœur. Crée en nous un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé. Qu'un esprit de bonne volonté nous anime, Seigneur. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Mais au contraire, Seigneur, tu désires que tu aies compassion de celui qui s'humilie et qui te cherche de tout son cœur. Ô Père Céleste, gloire à ton nom et louange à toi de nous exaucer et de faire ton œuvre dans notre cœur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.